après l'année de Gaulle en 2020, l'Élysée annonce une année Mitterrand en 2021. Hier, il s'est donc recueilli sur la tombe de son prédécesseur à Jarnac pour le 25e anniversaire de sa mort. La présidentielle, c'est dans 16 mois. Est-ce qu'on doit y voir, Catherine Ney, vous qui avez écrit, comme Michel Cotta, comme Charles Villeneuve, de nombreux ouvrages de référence sur François Mitterrand, doit-on y voir une arrière-pensée politique ?
Bon, sûrement un peu, mais c'est les 40 ans de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, les 25e anniversaire de sa mort, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Bon, eh ben, c'est une année mémorielle pour la gauche qui va célébrer ces dates, et donc il ne peut que les accompagner. Donc pour l'instant, il est allé à Jarnac déposer une gerbe. Il n'a pas parlé. Donc
non, mais il a tweeté en disant c'est l'héritage de Mitterrand est toujours vivant et continue d'irriguer notre histoire collective, Michel Cotta.
Oui, mais ça ne mange pas de pain. On verra ce qu'il, pour les 40 ans, ce qu'il retiendra de ces deux septennats, parce que 14 ans, c'est un record, rester à l'Élysée, c'est le seul président de la République. On verra ce qu'il en retiendra. Moi, je note qu'il fait très, très peu allusion à lui depuis 3 ans et demi.
Alors, justement, de ce point de vue-là, j'ai eu la curiosité de relire hier le livre Révolution, qui avait été son livre électoral. Oui. Il n'y a pas une fois, y compris sur l'Europe, le mot de Mitterrand. Il y a Rocard qui est cité, Chevènement est cité, mais jamais le mot de Mitterrand. Et donc, quand même, c'est vrai qu'il avait 3-4 ans quand Mitterrand est arrivé au pouvoir.
Et 18 quand il est mort.
Je me dis quand même... Qu'en dehors alors de l'Europe et de la peine de mort, comme il l'a dit après, l'opération est quand même électorale. Il y a quand même, pas directement, mais enfin, il y a quand même
c'est
un arrière-pensée
électorale.
C'est un clin
d'œil à la gauche après avoir penché à droite en rendant hommage à Pompidou, Giscard et Hippie
de Gaulle. 37% des électeurs de gauche, pour le moment, se prononcent encore pour lui. Mais je pense qu'effectivement... Il essaye de rééquilibrer le « en même temps ». Il a beaucoup de droite et il lui faut effectivement beaucoup de gauche. Mais enfin, il a été très discret sur Mitterrand.
Mais la seule fois, Michel, tu te souviens, la seule fois où il a parlé de la ligne, il a d'ailleurs dit, je cite, « la ligne, je me placerai dans la foulée de la ligne gaulo-mitterrandienne pour la France ».
C'était dans le débat Gaulo,
entre les deux tours,
c'était,
avant d'être élu.
C'est ce que je voulais souligner, pas seulement le mot, mais le fait que c'était pendant le débat d'entre deux tours, après quoi il a été élu, et après quoi, effectivement, Mitterrand est passé gentiment à la trappe. Alors là, l'histoire permet, c'est confortable l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de commémorations, l'histoire lui a permis, effectivement, de célébrer De Gaulle, largement, et à juste titre, de célébrer Giscard, je dirais, à juste titre. Bon, et Mitterrand, et bon, Sarkozy, il ne l'a pas célébré, mais comme on le voit tout, sans arrêt avec Sarkozy, on se dit, bon, quelque part, il le célèbre en le rencontrant. Et puis arrive Mitterrand. Mais effectivement, c'est difficile de ne pas voir un gros clin d'œil, un gros clin d'œil à l'électorat socialiste. Parce qu'il y a un déchet énorme. Il faut dire les choses simplement. Électoralement, il y a une partie des électeurs qui avaient voté Macron, venant de la gauche, qui avaient voté Macron. Il y en a une grosse partie, tous les sondages l'ont démontré, qui ont lâché prise et qui se regardent plutôt vers Hidalgo, vers Mélenchon, voire d'autres. Bon, donc, il faut les récupérer, parce que c'est vrai que la droite...
Alors, ce gros clin d'œil dont vous parlez, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, y a fait allusion hier, il était à Jarnac, on l'écoute.
François Mitterrand est celui qui a créé l'impôt sur la fortune, Emmanuel Macron est celui qui l'a abrogé. François Mitterrand est celui qui a élargi les conditions d'accueil dans notre pays, c'est Emmanuel Macron qui a restreint les conditions d'accueil des réfugiés avec la loi asile et immigration.
Charles Villeneuve.
Oui, il a fait allusion nettement à Mitterrand, rappelons-nous, de toute façon, en 2017, quand il a répondu, je crois, aux Parisiens, où il a dit « Dans mon panthéon personnel, il y a deux hommes qui comptent, c'est le général de Gaulle et le président François Mitterrand.
Oui, » oui.
Bon, ce qu'il vient chercher à Jarnac, comme l'a dit très bien démontré Gérard, ce qu'il vient chercher à Jarnac, c'est qu'il vient rappeler qu'en des temps anciens, il a commencé à gauche et qu'il n'a toujours pas lâché la rampe. C'est toujours le principe de son fameux « en même temps ». Et d'ailleurs, ces jours-ci, je crois qu'hier ou avant-hier, Michel Cotta me faisait remarquer qu'il y a 37% d'électeurs de gauche qui ne votent plus, en tout cas dans les sondages, qui n'apparaissent plus comme favorables à Emmanuel Macron. Il est bien évident qu'il vient les rechercher, qu'il vient rappeler à ses électeurs qu'il a commencé à gauche et que de toute façon, il tient pour principe. Alors moi, je crois plutôt, c'est l'autre si vous voulez, parti de socialiste, c'est-à-dire celui de Michel Rocard. Et d'ailleurs, autour de lui, remarquez aussi, il faut le remarquer, qu'il y a beaucoup d'anciens de chez Dominique
Strauss-Kahn. Oui, mais sauf qu'à dire « je viens de la gauche » et puis ensuite rendre hommage à Pompidou, à Giscard, à De Gaulle, cette stratégie du coucou, on a du mal à voir qui est vraiment Emmanuel Macron.
Il y a un livre qui vous l'explique très bien, d'ailleurs, justement.
Le livre de Corinne Laïc qui montre qu'il est un patchwork, qui se nourrit à peu près de toutes les influences et ça varie selon les moments et que, voilà, il est en train de se chercher à travers... tous les grands noms des deux, de la droite et de la gauche.
Il a la capacité d'enfiler tous les costumes.
Oui, c'est ce que dit François Patriat, d'ailleurs, patron de...
Toutes les paires, mais ça ne fait pas un collier.
Oui, sauf quand même une qualité qu'il n'a pas. Il en a beaucoup, et d'ailleurs, je vous citerai une phrase de Pierre Nora, l'historien. Il a une qualité formidable d'intelligence, de sorte de culture, etc., toutes choses. Mais ce que dit Pierre Nora, c'est ça. Macron, supérieurement doué, a une nature heureuse et réformatrice, faite pour les temps tranquilles. Or, il n'a rencontré que des tempêtes pendant son quinquennat. Ouais. C'est ça un petit peu le problème. Là, il va chercher l'héritage de De Gaulle. Bon, De Gaulle, pour les tempêtes, il a été servi, puisqu'il est issu de la tempête de 40. Mitterrand, il a essuyé un certain nombre de tempêtes aussi. A commencé à un moment donné, il s'est retrouvé avec la France dans la rue pour l'école publique qu'il avait essayé de réformer. Il y a eu des moments difficiles et des grosses tempêtes. Et Macron a été bien servi de son point de vue. Donc il essaye d'aller chercher chez les grands anciens, en l'occurrence les deux que je viens de citer, il essaye d'aller tirer effectivement une légitimité qui parfois lui est contestée, justement au nom du fait qu'il n'est pas assez régalien, il n'a pas assez l'autorité, il essaie de se mettre un peu de la cuirasse de ces deux-là.
Il essaie de retourner au schéma de 2017, qui était justement d'un côté affaiblir la gauche, de l'autre affaiblir la droite, et se trouver un centre au milieu. Et quand on parle des projets de suffrage à la représentation proportionnelle, c'est bien ça autour de quoi on tourne. C'est comment est-ce qu'on fait encore un parti en même temps qui jette d'un côté la gauche vers l'extrême gauche et de l'autre côté la droite vers l'extrême droite.
Sachant que dans son entourage, certains disent on espérait avoir élire Rocard, au mieux on a eu Giscard. Donc le virage.
Mais il est
à droite
très libéral européen.
Hein. Oui, oui.
Il se rapproche de
l'Europe
de Giscard.
Pour le coup, et Mitterrand, c'est aussi un héritage.
Oui, absolument. Mais je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur l'un de ses atouts. Et d'ailleurs, cet atout est apparu au moment de son apparition à près de 3 heures du matin dans l'affaire américaine. Il est insomniaque. Et c'est vrai que ça lui donne du temps, justement, de recherche, de travail. Hein, apparaître à 2h51 du matin pour dire de toute façon qu'il faut surtout faire gaffe parce que la démocratie est en danger, en disant « nous ne céderons pas hein, ». Ce « nous », c'est évidemment les Français, c'est lui-même, etc. Mais comme dit Brigitte Macron, mon mari ne dort pas, c'est confirmé.
C'est ce qu'il rapproche d'un autre grand ancien qu'on va d'ailleurs célébrer prochainement, qui est Napoléon. Napoléon non plus ne dormait pas beaucoup.
D'ailleurs, à mon avis, on pourrait avoir une cérémonie commémorative
et
pour Napoléon.
Par moment aussi était court sur la logistique. Daru, qui s'occupait de ça auprès de la Grande Armée, souvent disait « Attention, il n'y a plus de chaussures pour la garde impériale, il n'y a plus de... »
Oui, mais Bonaparte et Napoléon... Hein, qui est le même, évidemment, avait un prodigieux, comme d'ailleurs Masséna, qui calculait le nombre de clous et de planches pour construire des ponts pratiquement à un clou près. Mais Napoléon pouvait te calculer de toute façon le nombre de chaussures qu'il fallait et de cartouches pour chaque expédition.
Alors, on a un peu dévié.
On arrive déjà malheureusement à la fin de ce débat. Je vous propose d'instaurer un petit rendez-vous pour clore ce débat des grandes voix. C'est l'événement de la semaine à ne pas rater. Ce que vous avez coché dans l'agenda, Catherine Ney.
Moi, j'ai coché que le Brexit, là, on en sort, on dit c'est formidable, les Anglais, ils ont droit de douane, ils peuvent exporter comme ils veulent, comme avant, sauf qu'il y a une règle d'origine qui tracasse beaucoup le Royaume-Uni. Parce qu'une enseigne, par exemple, une enseigne d'habillement qui importe au Royaume-Uni des produits chinois et qui exportait avant en Europe, eh bien maintenant, elle doit payer une douane, des droits de douane pour cette exportation-là. C'est toutes les entreprises anglaises qui, font appel à la Chine pour fabriquer leurs propres produits, eh bien, si c'est au-delà de 50%, elles paieront des droits de douane et c'est très...
Et on va suivre ça de près. Donc, la semaine prochaine, Catherine. Charles Villeneuve, en 30 secondes.
Moi, je redescends au niveau, si vous voulez, de la justice française. Cette semaine, il va avoir un jugement qui sera rendu à Marseille dans le dossier d'un homme poursuivi pour avoir vendu des masques non conformes. Et je pense que la justice, et j'espère, aura la main lourde.
Michel Cotta.
Non, mais j'ai retenu quelque chose sur les maires écologistes, parce que
à Bordeaux, par exemple,
un rendez-vous ça donné par le maire de Bordeaux, et notamment on s'est aperçu que dans les bons sentiments, il a envoyé une lettre de vœux à tous les Bordelais en enlevant simplement la statue de Jacques Chaban-Delmas du paysage. Il y a une grande statue, bah comme sous le stalinisme, vous savez, on a enlevé les personnages qui vous embêtaient. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces grands-mères venues des Verts, des grandes villes, sont pris dans les mêmes difficultés. On se dit, ah mon Dieu, il y a des problèmes de sécurité, alors qu'on ne le savait pas. Et finalement, après avoir dit des grosses bêtises comme on ne veut pas l'arbre de Noël parce que c'est un arbre mort, eh bien, ils rentrent progressivement dans le jeu, enfin. On l'espère.
Gérard Carrérou, ce que vous avez coché dans votre agenda.
Je vais rester au ras des citoyens que je suis. Et je vais être à côté de mon téléphone et avec ma femme ou ma fille devant leur ordinateur le 14, le mardi 14. Pourquoi le mardi 14
Parce que nous serons quatre jours.
Le jeudi 14, vous commencez déjà à donner la bonne date. Le jeudi 14.
On sera 4 jours avant le 18 janvier, c'est ça ?
À vos téléphones, à vos ordi. Si vous avez plus. Parce que c'est le jour où M. Véran, que nous n'avons pas entendu, nous a dit il y a 48 heures qu'il fallait téléphoner pour prendre rendez-vous.
Très bien.
Et rendez-vous ou par ordinateur, ou par Internet, ou par téléphone.
Pour aller se faire vacciner.
Et si ça marche, si les Français qui téléphonent arrivent à avoir un rendez-vous, et ceux qui prennent aussi sur Internet un rendez-vous, ça sera gagné.
Ça va être la ruée.
Si c'est une ruée et une pagaille, et qu'on n'arrive pas à avoir le rendez-vous, alors là, ça sera mal barré pour atteindre la vaccination
On n'aura pas tous
rendez-vous le premier jour.
Non, c'est sûr, ça sera étalé, on y reviendra bien entendu.
Au moins un rendez-vous.
La semaine prochaine, samedi prochain, 10h-11h, les grandes voix historiques d'Europe 1 seront de nouveau avec nous, avec vous. Merci à vous, j'étais ravi d'animer ce débat pendant une heure, ça file très vite. À la semaine prochaine, les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h-11h,
Sébastien Guyot.